Chapitre 9. Jane Hawke était moins superstitieuse que la moyenne de ses semblables. Mais elle avait tendance à croire que les longs adieux étaient annonciateurs d'une séparation définitive. En clair, elle préférait dire « à bientôt » ou « à la prochaine » plutôt que de multiplier les embrassades. Ce dimanche-là, à 3h30 du matin, au moment de monter dans l'Explorer garé le long du funérarium, elle se contenta de gratifier Gilberto Mendez d'un sobre « au revoir » avant de le remercier et de lui dire qu'elle l'aimait. Elle avait pour conviction, et cela n'avait rien d'une superstition, que cette civilisation reposait sur l'amour. L'amour que pouvaient se vouer les êtres entre eux, l'amour dans sa dimension insondable. En ces temps de cynisme et de sarcasme, il était de bon ton de railler les émotions simples, de confondre amour et sentimentalisme. Dans ce monde en métamorphose constante, les valeurs auxquelles se raccrocher étaient rares. Les traditions et les relations de bon voisinage, héritées de siècles d'expérience, s'épuisaient peu à peu. Avec elles disparaissaient ceux qui trouvaient sens et réconfort dans des valeurs avérées. Désormais, les déracinés qui ne croyaient en rien, sinon à la mode du moment, produisaient une culture superficielle et conformiste, dans laquelle la réalité n'était plus qu'un royaume dépourvu d'amour et de repères. À condition d'aimer suffisamment de qualités essentielles chez quelqu'un, on aimait la personne concernée. Mais encore fallait-il le lui dire, car le temps était compté. Jane aimait chez Gilberto l'amour qu'il portait à Carmela, son dévouement pour ses enfants, son respect de la dignité des morts et de l'immortalité de leur âme, son amour de la liberté, sa foi dans les valeurs des Marines, dans leur devise « Semper Fi ». Aussi, au moment du départ, se contenta-t-elle de formules laconiques mais sincères.
« Au revoir. Merci. Je t'aime »,
dit-elle avant de le serrer contre elle en l'embrassant sur la joue. À 3h31, elle prenait la route au volant de son 4x4 trafiqué au Mexique, arborant la perruque noire punk et chic, le maquillage outré, les lèvres bleues et l'anneau nasal correspondant à la photo figurant sur le permis de conduire d'Elizabeth Bennett. Booth Hendrickson était assis à la place du mort, sous son contrôle depuis qu'elle avait prononcé la formule « jouons au crime dans la tête ». Elle avait pu mesurer l'efficacité du système, y compris dans le cas de son prisonnier, ce qui ne l'avait pas empêché de lui entraver les poignets à l'aide d'un lien autobloquant en nylon accroché à sa ceinture. Booth avait gardé son costume, mais il avait troqué sa chemise déchirée contre l'une de celles de Gilberto, dans laquelle il flottait. Avant que Jane lui lie les mains, il avait passé son temps à triturer nerveusement son bouton de col, visiblement désarçonné à l'idée qu'on lui ait retiré sa cravate. L'explorer filait vers l'est en direction de San Bernardino, sans qu'aucun de ses deux occupants ne parle. Jane apprécia ce silence durant la première demi-heure, heureuse de pouvoir réfléchir à la suite. Mais à mesure que défilaient les kilomètres, elle ressentit un malaise en voyant son passager regarder fixement la route d'un œil terne, le visage impassible. Elle décida de mettre de la musique. À défaut d'être équipée d'un GPS qui aurait permis à ses ennemis de la localiser sans peine, elle disposait d'un système audio et d'une large palette d'enregistrements. De façon douce amère, la musique la ramenait à l'existence qu'elle aurait pu mener si son père n'avait pas assassiné sa mère bien des années plus tôt. Depuis quelque temps, elle avait une préférence pour le concerto pour piano numéro 3 en la majeur de Mozart, dont le premier mouvement débordait d'un optimisme dont elle avait le plus grand besoin. Cette œuvre magistrale comprenait un autre mouvement d'une mélancolie si aiguë, si bouleversante, que Jane ne pouvait s'empêcher de repenser à Nick et à sa mère chaque fois qu'elle l'écoutait. Ou encore à Nathan Silverman, son ancien chef au FBI, à qui elle avait épargné une vie de servitude au service des Arcadiens en commettant un acte de miséricorde qui pèserait à jamais sur son âme. Ce passage du concerto, sans la déprimer, compensait l'optimisme du premier mouvement et rétablissait l'équilibre dans son cœur et dans sa tête. Alors que s'achevait le mouvement, Hendrickson rompit le silence en contravention de ses instructions.
« C'est tellement beau !» murmura-t-il.
Oui. De quoi s'agit-il?
Elle lui fournit les détails de l'œuvre.
Je n'avais pas droit à la musique.
Elle médita un long moment ce commentaire avant de réagir.
Vous y aurez droit cette fois, tout au long du trajet jusqu'à Tao.
Il se contenta d'un simple merci, en continuant de fixer la route, avec l'expression figée d'un sphinx scrutant l'éternité. Le mouvement lent du concerto prit fin, et Jane fut soulagée de retrouver un rythme et une mélodie plus entraînants.